Wesh HTP.
Salut.
HTP Radio, c'est le printemps.
C'est le printemps, pose-toi, t'as le temps.
C'est le printemps à Haute-Pierre.
Écoute HTP Radio. Prends le temps, c'est le printemps.
Vas-y, qu'est-ce que tu fous?
Qu'est-ce qui se passe à HTP?
HTP quartier.
Tu parles de quoi là?
On parle d'HTP.
Je vous propose de passer à la troisième partie de ce travail. Et là, j'ai choisi de faire un focus spécifique sur notre entretien, Claire, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses vraiment complémentaires avec les entretiens de Grégoire et Louis. Et j'avais vraiment envie de mettre en lumière, en fait, ce que tu m'as partagé, notamment par rapport à la colère, parce que c'est parmi les émotions qui ont été le plus souvent citées dans notre entretien, c'est celle-là qui est revenue le plus souvent. Donc j'ai fait un focus spécifique, vraiment sur la colère. J'ai apporté trois ouvrages aussi sur lesquels je me suis appuyée pour écrire cette partie, qui m'ont vraiment aidée. Je les sors après. Ou maintenant?
Si tu en as besoin maintenant, sors-les maintenant.
Je vous prie.
Ça vous dérange pas, je fais une toute petite pause parce qu'il y a Pivolo.
Vas-y, ouais.
Et le temps que tu sortes...
Ouais, ok. Je peux les présenter. Tiens, juste un mot.
Bah, tant que Greg soit parti, comme ça on n'aura pas de bruit. Vas-y.
Ok. Donc, je me suis appuyée sur « La démocratie des émotions », un ouvrage de Loïc Blandiot et Christophe Traini, et sur un article, en fait, où il parle de l'expression et la gestion des émotions dans les projets urbains, puisque, tu nous parles beaucoup, Claire, de ce qui se passe notamment dans le cadre de Réapro, ça me paraissait important de comprendre comment des chercheurs ont déjà travaillé sur la question des émotions et des affects dans le domaine de l'urbanisme. Je me suis appuyée aussi sur cet ouvrage de Patrick Vivret, qui s'appelle « La colère et la joie, pour une radicalité créatrice et non une révolte destructrice ». Et je me suis appuyée sur un dernier ouvrage qui s'appelle « Colère, insoumission, perspective ». Colère, courage et création politique. Voilà, et c'est vraiment ces auteurs qui m'ont aidé un petit peu à approfondir les différents paramètres que tu m'as présentés, Claire, dans notre discussion. Parce que ce qui ressortait, donc là aussi je me suis appuyée notamment sur, pour essayer de comprendre comment la participation citoyenne peut être optimale. À partir de ton témoignage, Claire, qui observait que très régulièrement, cette participation, elle est assez, je vais dire, minimaliste par rapport à une intention qui est celle, la tienne, Claire, celle des professionnels d'Horizome, celle des habitants, et qui se retrouve plusieurs fois confrontée à une réalité qui ne permet pas, en fait, à cette participation d'être réellement effective. Donc, je me suis appuyée sur l'échelle de Einstein pour voir qu'en fait, tant que la participation reste passive, en tout cas qu'elle n'est pas permise politiquement, exhaustivement, eh bien, là, on est sur plutôt une forme de manipulation des personnes, où les publics vont être considérés simplement comme des utilisateurs du projet. Donc là, on parle de non-participation, en fait. On a ensuite une deuxième strate dans cette échelle qui permet de voir à quel moment les publics et leurs paroles vont être prises en compte, jusqu'à le haut de l'échelle où là, on est vraiment sur une réelle co-construction de projet. Et autant je sais que ça fait partie des valeurs socles d'Horizome, cette question de la co-construction, de la co-conception, et c'est ce que vous mettez en œuvre, y compris dans les projets de RAPRO, autant ce que j'ai observé, c'est que une fois que vous avez travaillé à la mise en œuvre de différentes concertations avec les habitants, il se peut que parfois elle reste lettre morte, ce qui génère de la colère. Et c'est ça que j'ai schématisé page 99, c'est-à-dire pour moi des formes de l'entrave à la puissance d'agir vont générer de la colère pour vous, pour les habitants, et d'autres sentiments aussi. Hein. Il y a de la frustration, de la tristesse, parfois des choses encore plus fortes. Et parce que vous arrivez à faire quand vous la mettez au travail, là aussi, plus souvent de façon réflexive, ça permet de partager en fait ce qui vous anime, Et ça permet d'expérimenter en fait des nouvelles façons de rentrer en contact avec les habitants et avec les décideurs publics. Et à ce moment-là, on revient à de l'augmentation du pouvoir d'agir qui crée aussi de la transformation sociale. Et on est aussi sur, du coup, une transformation des affects. Et c'est un peu l'objet du troisième ouvrage dont je vous parlais. C'est comment on fait pour transformer la colère en émotion juste, entre guillemets, juste, ça veut dire simplement en émotion raisonnée, dans le sens réfléchi, et comment, à ce moment-là, on va pouvoir faire de cette colère un moteur de l'engagement, un moteur de l'action politique, et transformer, du coup, cette colère en joie, en amour, passer de passion triste aux passions joyeuses. Voilà, donc je vous laisse réagir.
C'est vrai que nous, on a pu en parler dans le cadre du projet Réapro, aussi d'un autre projet sur lequel on avait parlé. Alors Réapro, c'est plus des réflexions de questionnement dans nos modalités d'action et dans comment on construit le projet. Et cette colère-là, elle peut intervenir aussi sur d'autres projets, donc l'autre dont on avait parlé, où là, c'est plus compliqué parce qu'on est aussi, nous, dépendants d'institutions qui peuvent parfois cadrer les projets. Et donc, on crée parfois ces espaces d'expression, d'échange et de confiance qui sont dans les deux sens, hein, pas que dans le sens des habitants vers nous, qui peuvent être finalement remis en question aussi parfois par des institutions, ou en tout cas des gens qui font partie aussi du projet, mais un petit peu plus au-dessus. Quoi. Donc c'était plutôt sur cette question-là. Et là, la colère, et c'était un sentiment du coup aussi personnel sur des situations qui ont pu être vécues sur l'un ou l'autre projet. Mais en tout cas, de manière générale, à Horizon, on prône le contrôle plutôt des citoyens et de justement ce pouvoir d'agir et qui puisse être à l'origine de ces projets dans le quartier.
Mmh. Ouais, complètement. Et ça me paraissait important, en fait, dans la façon dont j'ai analysé aussi ce que tu m'as partagé, c'est de parler de la légitimité de cette colère, parce que qu'elle soit personnelle ou j'ai envie de dire presque peu importe, en fait, le contexte, elle est légitime. Parce que justement, elle permet à un moment donné de mettre en balance des valeurs qui sont personnelles et qui sont aussi celles du collectif Horizon et des formes d'incohérence des fois sur le terrain, ou peut-être des fois même dans le collectif, mais en tout cas sur le terrain, c'est sûr que là, il y a vraiment des... En tout cas, dans ce que j'ai pu comprendre de ce que tu me décrivais, à certains moments, des fossés en fait, entre un discours des fois et des pratiques, quoi.
Oui, enfin pour moi, ces colères, elles sont, en tout cas, ce sentiment-là, c'est aussi constructif parce que ça permet de se questionner justement sur des projets ou des contextes et de faire un petit peu un pas de côté, et d'avoir une réflexion un peu là-dessus qui peut justement être aidée par des lectures ou des recherches scientifiques. Mmh. Ouais. En tout cas, quels que soient les sentiments, ça nous amène aussi toujours un peu à se re-questionner sur des situations.
Oui, complètement. Et est-ce que Louis et Grégoire, vous vouliez réagir par rapport à cet affect ou ce partage ?
Oui, bon, on peut peut-être dire simplement qu'historiquement, je pense que les colères à Horizon, elles sont là depuis toujours. La fondatrice de l'asso, c'est une anthropologue, Barbara Morovitch, qui s'est toujours battue pour que les expressions, les critiques, les voix un peu discordantes puissent continuer à s'exprimer, parce que c'est des problématiques qui ont beaucoup de structures, peuvent être amenés comme ça à lisser un peu le discours. Alors on le fait tous, hein, parce qu'on est dans un univers de contraintes. On sait qu'on peut pas non plus tout exprimer. Enfin, ça pose aussi la question de la forme que prend cette colère, en fait. Est-ce qu'elle se transforme en quelque chose qui va chercher justement la transformation et donc qui va prendre des formes peut-être... C'est toujours cette question, c'est comment cette colère évite le penchant de s'isoler, de se mettre à distance en fait d'un contexte, d'un écosystème. Et comment est-ce qu'on peut transformer cette colère pour qu'elle elle fasse vraiment évoluer les choses dans le bon sens. Donc, et on a du mal à maîtriser la forme que prend cette colère. Donc, je sais qu'à plein de moments, là, c'était marrant, je retournais suite aux législatives, je revenais à un moment, j'ai regardé des vidéos sur le golf, en fait, le moment où l'élu de quartier avait décidé d'installer un golf dans la plaine des Jeux, donc qui est un espace libre où on fait des barbecues, où on a le seul terrain de foot d'accès libre du quartier. Et qui avait pour projet donc d'installer un golf privé en fait à cet endroit-là. Avec, faut imaginer des barrières autour d'un espace qui est un peu le poumon vert de Haute-Pierre. Et donc, dans ce cadre-là, on avait organisé d'abord des questionnaires en fait pour savoir quel était l'usage de cet espace. Donc là, un peu dans notre philosophie anthropologique, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passait. Et après, on a organisé un 1er mai festif sur place où on a fait un grand pique-nique, etc. Et bon, c'était un grand moment de tension parce que, ben, objectivement, on s'opposait frontalement à l'élu de quartier et à son projet. C'était pas évident en tant que structure associative d'un quartier. Voilà, et on a eu des intimidations, des appels téléphoniques pour nous remettre dans le rang. Voilà, donc c'est là qu'on fait l'expérience de nos colères et de l'impact que ça peut avoir sur les personnes, etc. Donc c'est très très compliqué en fait. C'est sans doute l'expression d'émotion la plus délicate, la plus difficile à transformer en positif, parce que le risque c'est de s'isoler, c'est de devenir voilà, l'autre, etc. Et comment on arrive à emmener les gens dans notre colère pour que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et finalement, bon, on voit bien que ça bouge, et ça bouge finalement plutôt positivement. Mais il y a aussi des difficultés à accepter la forme de cette colère, la violence qui peut venir avec, etc. Donc ça, c'est tout des trucs qu'on vit depuis 10 ans, mais qu'on cherche aussi à laisser quand même au cœur du projet pour justement pas devenir trop, trop consensuel et lisse, ce qui serait, voilà, ce qui ferait perdre... Donc... donner à ces émotions toute leur place et leur légitimité et en faire une force, quoi, finalement.
Ouais, c'est ça. Louis, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ouais, peut-être aller un peu dans ton sens, Greg, pour poursuivre. Je pense à un monsieur qu'on a accompagné depuis assez longtemps sur des initiatives habitantes de jardin et tout ça. Et à un moment, on a été amené à aller au commissariat pour parler d'une plainte qui était déposée à son encontre et à notre encontre, c'est-à-dire au rhizome. Et c'est particulier parce que du coup, derrière tous ces projets-là, il y a une envie, donc une sorte d'action qui se repose sur aussi un combat ou une forme de colère, une colère de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut librement. Donc on fait des jardins, on fait X choses, on fait un podcast, etc. Et en fait, ça pose la question de jusqu'à où on est prêt à aller dans notre combat, dans notre colère, sans mettre en porte-à-faux les gens, et comment on fait pour protéger et préserver les gens qui nous accompagnent. Alors que nous, on a les codes, des fois, pour s'exprimer et pour défendre nos positions. Mais du coup, ça pose cette question-là. Mais c'est vrai qu'après, la colère, c'est un truc qui est... Enfin, que les émotions sont précieuses, parce que, par exemple, je pense à cette visite de jardin qu'on avait fait avec Barbara Morovic, Zay et les étudiants et étudiantes en archi de Strasbourg. On avait fait la visite des jardins de Haute-Pierre. Et là, il y a un jeune du quartier qui est intervenu pour nous donner une autre vision du quartier et une autre vision de son rapport au quartier, parce qu'il a grandi là depuis qu'il est gosse, quoi. Et sa colère, elle lui avait donné aussi une acuité, un rapport réflexif au quartier qui était extrêmement puissant, et d'où l'intérêt de l'avoir. Et puis surtout, ce qu'il avait, en plus de cette colère-là et de cette acuité-là, il avait la capacité à l'exprimer. Et c'est peut-être ça, ouais, ce qui est précieux, quoi.
Ouais, complètement. Ben, j'avais envie de... Justement, comme c'est une émotion extrêmement complexe, la colère, toutes les émotions le sont, mais la colère en particulier, de fait de ses potentiels débordements, j'ai choisi un petit extrait d'un épisode d'une émission... Tout le monde s'en fout sur YouTube. Et j'ai pris juste le début pour voir ce qu'on pouvait aussi nous dire, pour essayer d'encore mieux la comprendre.
How could I start a world on fire?
Je crois qu'il faudrait désamorcer un sujet explosif.
La colère. C'est une émotion à laquelle on comprend tellement rien que même si on a essayé d'y mettre plein de règles pour qu'il n'y ait rien qui dépasse, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de gens en colère. Mais le vrai problème, c'est pas le nombre de gens en colère. C'est le nombre de gens qui l'expriment n'importe comment.
Bon, les gars, j'ai reçu les nouvelles instructions pour réprimander les manifestants, mais sans violence. Si, on continue de les défoncer, mais on leur chante des trucs gentils. Michel, démonstration. Tikalikatao, tikalikatao. C'est bien. Ticalicatao, ticalicatao.
Parce que l'agressivité, c'est pas le seul moyen d'exprimer ta colère.
Voilà, je m'arrête là. J'aimais bien aussi ce petit exprès pour le côté humoristique. Parce que oui, la joie, c'est aussi de réussir à la transformer en humour, des fois, cette colère. Ça peut être chouette. Et je vous propose de passer à la dernière partie de cette émission, qui est axée sur les préconisations, puisque dans cette recherche, une fois que j'ai analysé nos entretiens, je suis invitée à produire aussi un certain nombre d'améliorations, préconisations possibles. Et donc pour moi, elles tiennent en trois axes et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse en échanger. Un premier axe qui est autour de le temps nécessaire, parce que la question du temps, elle est vraiment beaucoup revenue aussi dans vos trois entretiens, donc du temps nécessaire pour créer des espaces réflexifs, pour mettre au travail ces émotions, et notamment la colère, mais pas que, puisque j'ai observé que, ben, notamment ce que tu me disais, Claire, c'est qu'il y a vraiment de la difficulté à prendre du temps pour se poser et pour réussir à écrire, à débattre de ça, y compris au sein de l'équipe. Et donc, une des préconisations que j'aimerais faire, c'est de pouvoir trouver des ressources qui vous permettent de prendre ce temps. Et ces ressources, elles sont évidemment, en tout cas telles que je les imagine, en argent pour pouvoir payer du temps salarié et que ça puisse être intégré directement à la mise en œuvre de vos projets, y compris valorisé au niveau des financeurs quand vous faites des demandes de subventions. Parce que pour avoir déjà regardé comment s'articulent des dossiers, il y a toujours une partie bilan évaluation. Mais je ne sais pas, donc je vous demande aussi aujourd'hui si tout ce temps que vous pourriez avoir besoin pour travailler, mettre au travail vos actions, vos émotions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est financé, c'est pris en compte ou pas ?
Le nerf de la guerre.
On ira bien.
Depuis le début, je pense que ça fait partie des questions qu'on a du mal à résoudre, puisqu'en fait, depuis le début, le travail lié à la recherche, qui serait en fait l'endroit où on pourrait venir dans tous les projets un peu pousser à ce temps pris, à ce retour réflexif, etc., ben, il est hyper difficile à financer, déjà, dans un premier temps. Même avec une anthropologue qui, pourtant, était vraiment... enfin, quelqu'un qui était... qui est toujours, hein, puisqu'il est président de l'association, mais qui est au cœur de ces problématiques et de ces sujets. Les circuits pour financer cette partie-là, dans le cadre d'une association de quartier, ils sont quasiment inexistants. Donc... ou alors on n'a pas réussi à les trouver, mais enfin, je veux dire, Pauline aussi est sur la question et c'est pareil, c'est les mêmes problématiques. Donc en fait, on sait qu'il n'y a pas de porosité déjà beaucoup dans ces interrelations entre ces domaines. Le financement de la recherche, c'est un domaine qui est hyper spécifique et un peu isolé. Et en fait, les attentes qui sont posées en général sur ce domaine, ben, ont du mal à trouver le cadre avec ce que nous on fait. Donc ça, c'est sûr que c'est une problématique qu'on a depuis le début. Financer des postes pour la recherche, ça nécessite... Et puis l'attente sur ce qu'on dit, bilan, retour, etc., du point de vue des pouvoirs publics, c'est pas exactement la même que ce que nous, on entend. Ça va être beaucoup du bilan quantitatif, quand même. Ou parfois, effectivement, on nous demande de faire des retours un peu plus fins. Mais voilà. Alors il y a un autre biais, peut-être, à Horizome. C'est que même si on a cette intention autour de la recherche, on a surtout une boulimie d'action. Et ça, c'est l'autre biais du truc. C'est que je pense qu'à chaque fois qu'il y a... c'est le serpent qui se mord la queue. Si on ne fait pas l'action, nous, on n'est pas satisfait non plus à la fin. Et il y a cette urgence, finalement, quand on voit toute l'énergie, toutes les initiatives qu'il y a, de les porter et de pouvoir mettre les moyens aussi sur ces projets. C'est pour ça qu'on essaye aussi... toujours aussi dans cette contraction de nos moyens à nous, personnels, parce que sinon on fait plus rien. En fait, il y a aussi plein de structures qui mettent beaucoup d'argent dans le fonctionnement, dans le truc, mais qui à la fin, il y a beaucoup de personnes sur place et puis il y a très peu d'action. Donc on veut pas rentrer dans ce truc là et ça veut dire qu'il y a une grande part qui doit revenir aux habitantes et habitants dans leur projet, dans leur pouvoir d'agir. Donc en fait, voilà, on est au cœur de ces contradictions. Et c'est vrai que peut-être que c'est le domaine qui en pâtit le plus, mais qui serait aussi, paradoxalement, le plus aussi nécessaire, c'est vrai. Voilà. Mais, et donc il faudrait des moyens spécifiques pour ça, et il faudrait peut-être que les financeurs de la recherche favorisent et mettent de la recherche un peu partout dans le territoire, pour que on sorte un peu de ces cloisonnements et que ça permette d'en retirer des... Ouais. Je crois aussi comme tu es en train de le faire. Donc ça c'est vraiment hyper 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 important. Mais ça peut pas. C'est très bien que dans le cadre des études on puisse le faire, mais effectivement comment après ça se professionnalise et comment ça s'ancre dans les structures. Et je pense qu'on en apprendrait beaucoup et on serait aussi peut-être plus efficace, efficient après dans les projets sur le terrain.
Ouais. Ça rejoint un des axes de préconisation que j'avais identifié, que j'avais intitulé « Favoriser et investir dans les recherches éducatives plutôt que dans les approches coercitives ». C'est quelque chose qu'on a évoqué pendant notre entretien avec toi, Grégoire. Et ça ressortait aussi dans les autres entretiens, de vraiment être dans ce type d'approche-là, mais avec, effectivement, avec quels moyens et quel temps dédié, quoi. Donc oui, ça c'était un des axes. Et j'avais aussi identifié un autre axe autour de la formation des professionnels. Et là, je parle professionnels au sens large, les professionnels de l'accompagnement en général, pour développer justement cette question du rapport à la sensibilité et du rapport à l'éthique, le travail de la posture. Ça rejoint la question de des espaces réflexifs et éventuellement de formation en alternance, parce que c'est aussi ce qui peut permettre d'avoir des temps de mise en pratique sur le terrain et des temps réflexifs avec justement du temps pour lire, du temps pour écrire. Mais ce n'est pas forcément la panacée, il y a plein d'autres formations possibles. Et j'ajouterais volontiers ce que tu disais tout à l'heure, Grégoire, c'est-à-dire des temps aussi d'échange mutuel avec d'autres structures pour partager des savoirs, des outils, des méthodes, des réflexions qui émane du travail et des pratiques de terrain. Donc ça serait mes préconisations principales, donc que j'enrichirai de ce débat. Est-ce que Claire et Louis, vous voulez ajouter quelque chose?
Préconisation. Ouais, moi j'appuierai encore un peu plus ce qu'a dit Grégoire sur... C'est un problème assez global, ce rapport à l'argent, ce rapport à la valorisation du travail. C'est un problème qui est global parce qu'en fait, tout le travail et tous les travaux sont concernés par ce rapport à l'argent, qui est un rapport contemporain assez spécifique. Cette idée qu'il n'y a pas d'argent magique, qui est une phrase qu'on entend quand même assez régulièrement autour de nous, et qui est vraie, enfin, il n'y a pas d'argent magique, mais après, il y a aussi une volonté politique qui peut amener de l'argent là où ça fait du bien. Et je pense à un truc tout simple, mais quand on est rémunéré au projet, c'est-à-dire à ce qui est visible, la partie émergée de l'iceberg, et pas au fonctionnement, on est dans une logique hyper fallacieuse et extrêmement insécurisante, tous les points de vue, que ce soit économique ou émotionnel d'ailleurs. Et en fait, ça, c'est ça ce qu'on veut derrière la formule « j'ai pas d'argent magique ». C'est cette insécurité-là qu'on veut créer. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? C'est juste une décision politique qui crée de la ségrégation. Je ne sais pas si c'est volontaire et je ne prête pas de mauvaises intentions aux personnes qui sont responsables de ça. Mais en tout cas, le résultat, c'est des conséquences néfastes sur le quotidien des gens. Oui, du coup, ce sont des débats qui concernent un milliard de gens. Enfin, je pense que même dans le champ des professions artistiques, par exemple, où il y a une réflexion, même dans le champ des arts visuels, sur une rémunération des artistes plasticiens, plasticiennes, qui seraient plus au projet, mais comme les intermittentes du spectacle, sur un financement pérenne pour assurer des phases de recherche et tout ça. Je pense qu'Horizon, c'est un horizon, pour pas faire de jeu de mots dessous, qui serait pas mal... d'avoir quoi, de se dire qu'on est on sait avec l'expérience de ces 10 ans de travail à Haute-Pierre qu'on est capable de faire des choses bien, notamment grâce à l'appui des habitants habitantes, donc bah vous avez carte blanche pour faire ce que vous savez faire et voilà quoi.
Ouais. Ça serait beaucoup plus juste et cohérent avec la réalité, tu vois. Ouais. Ok, merci.
Peut-être juste pour compléter là-dessus, expliquer aussi qu'historiquement, Horizome a été une association, même si on a développé ensuite les questions d'environnement, de cadre de vie, de fabrication participative de la ville, au départ, c'était vraiment une structure avec la culture et l'art vraiment au centre des choses. Et c'est vrai que la manière de percevoir par l'institution l'action artistique est encore plus liée à cette histoire de fabriquer au projet, quoi. On finance l'art et la culture en one shot, on dit tiens, on va faire une résidence on va monter un spectacle, etc. Et je le dis aussi pour les autres structures de l'art et de la culture, en fait je pense qu'on est en train de muter tranquillement quand même, et je pense qu'il serait temps aussi que ces domaines se réactualisent dans leur manière de financer les projets. Il y a de plus en plus d'artistes, et tu as raison, la piste d'ailleurs que j'ai entendu récemment revenir sur le tapis de l'intermittence du format de l'intermittence du spectacle pour les artistes, pour être une piste intéressante, parce que voilà, c'est arrêter de considérer que l'artiste produit une œuvre et que c'est ça, en fait, son horizon indépassable. En fait, chaque nuit qu'il passe et chaque jour qu'il passe, il est en train de développer quelque chose autour de son travail. Alors évidemment qu'il y a historiquement beaucoup de travail un peu égotrip qui vient de cette culture de l'art et de la culture qu'on a sans doute aussi encouragé, que les écoles d'art et autres ont et le contexte général ont encouragé, mais c'est en train de changer. Je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qui travaillent en collectif, qui travaillent dans des territoires, qui travaillent dans des lieux, sur des problématiques de plus long terme, avec des habitantes et habitants. Donc à un moment, il va falloir un peu sortir de ce truc-là. Nous, la manière de sortir, ça a été d'aller vers l'éducation populaire et la jeunesse, parce que c'était finalement la manière de dire, en fait, ce qu'on fait au fond, c'est la question du pouvoir d'agir sur un temps long, au quotidien dans un territoire, et que donc ça peut pas être des one shot, ça peut pas être le projet qui est au cœur de tout ça. Non, le projet c'est ce mouvement général avec un certain nombre de personnes qui travaillent pour ça tous les jours. Donc il faut sortir de cette logique, et l'objet qui se crée à un moment, il a son rôle, il est hyper essentiel, mais c'est pas ça le sujet, en fait. Donc il faut sortir de ces logiques là et je crois que voilà, ça devrait nourrir aussi des réflexions sur le domaine artistique et culturel, je pense.
Oui, tout à fait. Claire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Non, bah, je rejoins totalement Louis Grégoire sur l'idée de justement sortir de ces logiques-là et de prendre en compte aussi toute la face cachée, parce qu'il est visible, en tout cas dans des travaux, quels qu'ils soient, et que voilà, au niveau des financements, ça puisse aussi... tout ce travail puisse être pris en compte et valorisé d'une certaine manière. Ouais. Et le fait même aussi parfois d'avoir des bilans qui sont très, très quantitatifs, ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'on fait, parce qu'on ne va pas essayer de quantifier les... Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est plus justement le qualitatif et ce qu'on vit sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain. Et voilà, ça aussi, il y a parfois une petite rupture par rapport à ce qu'on peut vivre.
Ouais. Ok. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à cet ensemble de la recherche ?
Peut-être spécifier un peu... Je sais pas, la place un peu hybride et de HTP Radio, du coup, qui est un média qui est très dur à situer. Enfin, plus j'avance, plus je comprends quels sont les enjeux à l'œuvre dans HTP Radio. Mais du coup, c'est un peu ça, en fait. Dans HTP Radio, on négocie aussi des formes de réflexivité, en tout cas du temps, de l'espace et des fois aussi un peu des formes de non-mixité, pour avoir la capacité de parler, de réfléchir, de penser. Et du coup, je pense qu'en fait, des fois, accepter de faire média à côté de grandes voix très dominantes et de très codifiées, très chartées, ça permet justement de produire un espace de capacitation. Et c'est assez rigolo parce que vis-à-vis du collectif, je dirais qu'on n'est pas du tout indispensable à la marche concrète du collectif. Mais je pense qu'on apporte un truc, que cette idée de radio, c'est un peu comme un... Comment dire ? Ça a une grande force symbolique, en fait, là, l'idée de la radio. L'idée de dire, tiens, je vais te donner la parole, c'est quelque chose qui renforce les gens dans leur estime d'eux-mêmes, en fait, je pense. Et du coup, peut-être juste amener cette idée-là, parce que ça va dans cette idée de préconiser quelque chose, quoi.
Complètement. Donc, est-ce que tu proposerais de préconiser à la fois un développement d'HTP Radio et puis le développement de nombreux médias alternatifs comme ça, qui sont justement des espaces capacitants d'expression des habitants, entre autres ?
Oui, complètement, ça fait sens. Enfin, ce serait paradoxal que je dise le contraire. Mais oui, tout à fait. Et toujours dans cette idée, voilà, pour moi, si on va au fond de cette idée d'HTP Radio, c'est... passer du moment où on tend le micro aux gens dans la rue et dans des occasions comme ça, on leur tend juste le micro, à des moments où les personnes sont en mesure de produire eux et elles-mêmes toutes les étapes nécessaires à la création radiophonique. Et du coup, là, on est vraiment dans de la capacitation parce qu'il y a un discours qui peut être élaboré. Et ce qui est précieux dans ces temps d'élaboration, pour conclure sur mon truc, c'est sans doute le regard assez singulier qui naît de ces moments où on est obligé de se positionner face à des réalités. À chaque fois que j'accompagne des habitants-habitantes, c'est ce que j'essaie de chercher, en fait. Et voilà, c'est ça ce qui produit du renforcement pour moi.
Mmh. Ok. Je vous remercie, chacune et chacun, du fond du cœur, pour votre participation à cette recherche qui était pour moi aussi passionnante à tous les endroits. Et je vous dis à très bientôt. Et je revois une petite musique.
Est-ce qu'on peut dire un petit mot avant ?
Oui, bien sûr. Ah oui, vas-y, je t'en prie, Greg. Pardon.
Je voulais juste te remercier et mettre aussi en perspective ce que tu as fait et la manière dont tu l'as fait vis-à-vis de nous tous. Ah, c'est l'heure, on a faim.
Que ça s'entende.
Non, parce que je pense que la boucle est bouclée et que tout ce que tu racontes, tu l'incarnes et tu le mets en œuvre dans la manière dont tu travailles. Et c'était vraiment agréable d'être autant associé, qu'on suive et qu'on sente que tu avais cette envie de nous inclure dans le mouvement de ta recherche et avec beaucoup d'écoute et de bienveillance. Et c'est pas toujours le cas dans le domaine de la recherche, donc merci beaucoup pour ça.
Oui, merci beaucoup. Et puis même, tout ce travail que t'as mené et tout, j'ai hâte de lire le dossier final quand il sera prêt. Merci.
Ouais, merci Julie. Vraiment, j'adhère à 1000% à ce que Claire et Greg ont dit. Bravo pour ton travail. Mmh. Et puis même en tant que truc non professionnel, c'était aussi super sympa d'être avec toi. Ouais.
Carrément. Merci. Merci pour tout. La rage, tu veux, la rage, tu veux, la rage, tu veux.
les pavés. Demande à fable la vie claque, comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfant. Pas imagine un mur et aboli. La rage, car impossible, et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses? La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour, tant de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, hein. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. Plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, Inch'Allah. À la veille d'une révolution. Arrache du peuple, arrache du peuple. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle la populace et la rage est énorme.
Arrête, arrête, arrête.
HTP Radio, c'est fini pour aujourd'hui.
Tchuss, salut.
Retrouve-nous sur htpradio.org.
Allez, ciao. Ciao.
Bismillah, à bientôt.
À plus dans le bus, ma puce.